Voilà, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je pense que c'est pas forcément facile de passer après Jacques, mais voilà, on va faire au mieux. Jacques, que je remercie pour son invitation. Je remercie aussi Jérôme Boissonnade. C'est très aimable à vous d'avoir invité alors qu'on ne se connaît pas, tout simplement.
Encore.
Pas encore. Donc voilà, il faut faire confiance à Jacques. Voilà, suite à ton intervention, je comprends mieux aussi l'invitation. Je pense que je vais gratter du côté du néo-naturalisme, en fait. Hein. On va dire ça comme ça, pour faire transition avec l'exposé de Jacques. Je vais vous parler aujourd'hui de la question de la conception de la nature dans la politique des parcs naturels en Suisse, avec les tenter d'identifier des bonnes et des moins bonnes natures de ces parcs. Pour commencer, je souhaitais un peu me situer, c'est-à-dire d'où je viens, d'où je parle en fait. J'ai travaillé pendant ma thèse sur la question de l'imaginaire anti-urbain en Suisse. En fait, quand on gratte cet imaginaire anti-urbain, on en arrive très rapidement à une opposition ville-nature, avec l'idée que la condamnation de la ville est très souvent fondée sur une image idéalisée de la nature, d'où cette image extraite de la littérature pour enfants, Barbara Papa, où cette confrontation est très très nette. Donc première chose, donc les images anti-urbaines et puis la place de la nature dans ces images anti-urbaines. Deuxième chose qui m'intéresse, c'est ce que j'ai appelé la ville des défenseurs de la nature. La conception de la ville par ceux qui défendent la nature, qui est une autre manière de confronter ville-nature. Donc je me suis intéressée en Suisse à l'association Pro Natura, qui est la principale association de protection de la nature en Suisse, et puis au BVF en général et au BVF France en particulier, avec quelque chose d'assez intéressant parce qu'il y a vraiment actuellement une évolution de la conception de la nature et de la ville chez les protecteurs de la nature, avec cette première image, un peu une idée traditionnelle d'une pauvre nature en ville, une nature qui survit entre béton et bitume, pour en arriver à une conception de la ville aimable, la ville désirable, qui est la ville durable en fait. Il y a une bonne ville, c'est la ville durable, une ville durable où nature et ville peuvent coexister. Je vais vite. Hein. Et puis, troisième élément qui m'occupe actuellement, dont j'ai oublié de mettre le titre, c'est, si vous voulez, la conception de la ville chez les naturalistes. Quand je dis les naturalistes, pour moi, ce sont les biologistes, les écologues, l'écologie scientifique, en fait. Et de quelle manière ils considèrent la nature en ville et du coup la ville. Voilà. Ça, c'est ce qui permet, en fait, de placer le discours que je vais vous présenter maintenant. Alors maintenant, les parcs naturels. Les parcs naturels en Suisse. Pourquoi c'est intéressant ? Il y a deux contextes. Oui, une chose que je voulais dire finalement, c'est que j'étais aussi surprise de l'invitation de Jacques, parce que le développement durable n'est pas au centre hein, de mon approche. Mais c'est vrai qu'il y a différentes choses que je vais vous présenter qui permettent de mettre le développement durable en regard des évolutions, des conceptions de la nature, en fait. Par exemple dans la politique des parcs. Et en fait, par rapport au développement durable, en 2002, le Conseil fédéral, donc Suisse, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Suisse aujourd'hui, a développé une stratégie sur le développement durable, et une des conséquences immédiates de cette stratégie a été une modification de la loi fédérale sur la nature, protection de la nature, et la création de trois nouvelles catégories de parcs. Qui découle donc directement de cette stratégie. Ça, c'est la première chose, et on va avoir le temps d'y revenir. La deuxième chose, c'est que en 2010, un groupe de travail a été lancé par l'Office fédéral de l'environnement pour savoir s'il fallait créer une nouvelle catégorie de parcs en Suisse, les parcs naturels urbains. Donc une catégorie qui n'existait pas encore. Et j'ai eu la chance, en fait, de participer à ce groupe de travail, et ça a été mon entrée, en fait, dans cette question, participant aux discussions. Voilà. Alors, les questions que je vais aborder aujourd'hui sont les suivantes. Je m'intéresse aux valeurs de la nature dans la définition des parcs naturels en Suisse et à leur évolution. Et par rapport, disons, à une présentation assez figée de ce que peut être la nature, ce que peut être la ville chez les naturalistes, j'aimerais au contraire montrer qu'il y a vraiment une évolution de cette conception de la nature, et en particulier, quelles sont les conceptions du rapport ville-nature et du rapport homme-nature. C'est les deux. Et la place de l'homme, finalement, qui est donnée dans la définition de ce qu'est la nature, et en particulier de ce qu'est la bonne nature, celle qu'il est légitime de protéger. Alors, je vais mon exposé se décline en trois parties, la nature dans les parcs naturels, puis je vous présenterai l'exemple de l'échec du parc naturel urbain, car donc elle n'a pas été créée, cette catégorie, et les raisons de l'échec sont tout à fait intéressantes. Et puis finalement, en troisième partie, j'apporterai des éléments, je l'espère, pour la discussion. Alors, nature et parc naturel, place de la nature, valeur de la nature dans les parcs naturels. Alors, pendant très longtemps, il y a eu en Suisse un seul parc naturel qui était le parc national suisse. Le parc national suisse qui a été créé en 1914 à la suite de la création des grands parcs nationaux aux États-Unis. La Suisse a été une des premières à créer ce type de parc en 1914, donc dans le canton des Grisons, tout à fait à l'est de la Suisse. Alors, quelle conception de la nature était derrière ce parc? Je trouve qu'elles sont particulièrement bien illustrées par cette citation de Pro Natura Magazine. Pro Natura, donc association de protection de la nature en Suisse, a été créée à l'occasion de la création de ce parc national. Donc, Pro Natura a été créée pour motiver la création de ce parc. Et voilà ce qui est dit de la nature. Au parc national, la nature est affranchie du contrôle de l'homme. Le but essentiel du parc national suisse est la protection absolue, la nature livrée à elle-même dans sa puissante sauvagerie, seule maîtresse de ses destinées, ayant repris ses droits et son indépendance comme au temps qui avait précédé la domination de l'homme. Donc là, cette citation est très claire. La nature qu'on doit protéger dans le parc national est une nature non anthropisée et une nature sauvage, voilà, seule maîtresse de ses destinées. Et le but de la protection, c'est évidemment de protéger cette nature intouchée contre la pression humaine. C'est pour ça qu'on fait un parc. Cette représentation de la nature sauvage, elle est confirmée en 1980 où est votée la loi sur le parc national. Il n'y avait pas de loi auparavant. Cette loi dit ceci: le parc national suisse, situé dans le canton des Grisons en Engadine et dans le Val d'Uster, est une réserve où la nature est soustraite à toutes les interventions de l'homme et où en particulier l'ensemble de la faune et de la flore est laissé à son évolution naturelle. Donc là, on est bien dans ce qui est considéré comme une nature sauvage, et l'homme apparaît comme le perturbateur de cette nature et totalement exclu, en fait, du parc national. Bon, ce faisant, en définissant le parc national, évidemment, on a exclu toutes les interventions humaines et tous les habitants qui étaient dans ce parc et qui avaient aussi contribué à le façonner. Mais ça, en fait, à partir du moment où elle a été créée, on a exclu l'intervention humaine et donc on gommait l'impact. Si on veut synthétiser cette représentation de la nature, avec le parc national suisse, on est dans un espèce de continuum jusqu'à la nature urbaine, qui serait la nature la plus humanisée possible. on est totalement du côté de la nature sauvage. 1914, mais aussi 1980, puisque la loi date de 1980, et puis va tout à fait dans le même sens. On en arrive à 2006 et la modification de la loi sur la protection de la nature. En 2006, on crée en fait trois nouvelles catégories de parcs en Suisse. Le parc national, donc qui est une dans la lignée du parc national suisse, mais qui est un peu différent. Le parc naturel régional et le parc naturel périurbain. Avec ces créations, enfin, avec ces nouvelles catégories, en fait, la Suisse rentre dans le modèle international de l'IUCN et les catégories de parcs qu'on retrouve par ailleurs en fait dans le monde. Et on voit que le développement durable est passé par là et que avec ces parcs, il y a vraiment un important changement dans la conception de la relation à l'homme et à l'activité humaine, puisque les activités humaines sont partout tolérées, et l'objectif est de parvenir à un équilibre entre la nature et son utilisation par l'être humain. Donc l'homme n'est plus exclu finalement de la définition de la nature à préserver dans ses parcs naturels. Il s'agit de conjuguer harmonieusement conservation des milieux naturels et paysages avec le développement régional. Et puis, donc développement régional, voilà, la sphère économique, et les paysages aussi, parce que l'idée de paysage qui fait son introduction, son entrée à ce moment-là, c'est aussi l'idée de la transformation par l'homme de la nature. Alors je décris ces trois catégories de parcs parce qu'elles sont particulièrement intéressantes. Le parc national, donc catégorie adaptée d'après le parc national suisse, il se définit par deux éléments clés. Il y a toujours une zone centrale et une zone périphérique. Enfin, il peut y avoir plusieurs zones centrales et puis une zone périphérique. Et la zone, en fait, le parc national suisse, lui, n'est qu'une vaste zone centrale. Alors que le parc national, voilà, il y a une zone périphérique. Dans la zone centrale, on retrouve cette idée de nature, disons, exclusive. La nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès très limité. Cette zone centrale, c'est, on retrouve ici l'idée de nature sauvage, même si le public a quand même un accès. Et la zone périphérique, c'est une zone qui fait la transition avec l'extérieur, mais c'est une zone aussi où désormais, certaines activités sont autorisées. Donc ce faisant, l'homme fait son entrée dans la définition de la nature, des parcs naturels. Deuxième parc, le parc naturel régional, qui est sans doute l'expression la plus évidente du rapport renouvelé entre l'homme et la nature, puisque avec ce parc régional, les activités humaines participent à l'entretien des qualités naturelles du parc et que l'habitat, la population, finalement, sont pleinement intégrés dans sa définition. Le parc naturel régional est pratiquement similaire aux parcs naturels régionaux qu'on retrouve en France. Et ce parc régional est véritablement conçu comme un instrument de développement pour des régions périphériques et rurales déshéritées. Et sa caractéristique, c'est d'être une nature rurale. Ce sont des espaces ruraux remarquables et habités par l'homme. Cette forme de parc participe concrètement à la création de conditions favorables au développement durable, à l'éducation à l'environnement, à la découverte du patrimoine naturel et culturel. Et il se caractérise par une faible densité d'occupation, ce qui lui confère son caractère rural. Troisième catégorie de parc créé en 2006, le parc naturel périurbain. Alors l'idée de ces parcs, en fait, c'est de pouvoir protéger une nature remarquable à proximité des villes. Il n'y avait pas d'instrument pour aller dans ce sens, dans la mesure où le parc national suisse est est censé être très éloigné des villes. Là, il s'agit de reconnaître qu'il y a des aires naturelles remarquables proches des villes et qu'elles doivent être protégées. Il est aussi conçu, ce parc naturel périurbain, comme un territoire où le public doit trouver un contact avec la nature. L'idée, c'est qu'il ait à proximité des villes la possibilité de trouver, enfin, d'avoir la possibilité de se rendre dans la vraie nature, une nature préservée. Et du coup, ces parcs doivent se situer pas trop loin des villes, mais en même temps offrir un milieu naturel préservé à la faune et à la flore. Et élément très important, en fait, ce parc, la définition de ce parc reprend les critères du parc national. C'est-à-dire qu'on retrouve l'idée d'une zone centrale et d'une zone, ici ça s'appelle zone de transition, mais c'est à peu près la même chose. Il faut qu'il y ait un cœur ou plusieurs petits cœurs préservés où l'accès à l'homme est très limité, et une zone de transition qui est la zone qui est accessible en fait à tous. Dans la zone centrale, toujours cette même définition de la nature est livrée à elle-même et le public a un accès limité. Donc, zone de transition, permettre à la population de découvrir la nature. Voilà. Alors voilà, si je reprends mon schéma, avec ces nouveaux parcs, voilà, on couvre plus de nature, si vous voulez. Avec le parc national suisse, on était dans la nature sauvage. Et avec le parc naturel régional, on passe à une nature qu'on peut qualifier de rurale. Et puis avec le parc naturel périurbain, on se rapproche de la nature urbaine, mais on reste en dehors de la ville. Mais voilà, ce qui a introduit cette modification de 2006, c'est l'idée que l'homme est présent dans la nature, intervient sur la nature, modifie la nature et peut la modifier à bon escient. Dans le parc naturel régional, l'intervention humaine est nécessaire à l'entretien du parc, puisqu'il s'agit d'une nature agricole, en fait, et d'un paysage qui ne peut être préservé que si l'homme intervient pour l'entretenir. Après 2006, en fait, il y a eu. Donc, il n'y a aucun nouveau parc national qui a été créé, parce que c'est très. Enfin, la définition est très stricte. Il y a surtout, en fait, des parcs naturels régionaux. Donc, en fait, ce que vous avez en rouge ici, c'est le parc national. Ce que vous avez en vert clair, ce sont les parcs qui sont en projet. Ça, ce sont deux projets de parcs nationaux au Tessin. Et puis ici, un autre projet de parc régional. Tout ça, ce sont des parcs régionaux, en fait. Tout ça, ce sont des parcs régionaux. Il y a 14 parcs régionaux qui ont été créés. Et cela peut s'expliquer par le fait que, finalement, par rapport aux autres critères des parcs, c'est plus facile de faire des parcs régionaux que de faire un parc national ou un parc naturel périurbain. Je vais en dire deux mots. De parcs naturels périurbains, il n'y en a qu'un, dans la banlieue de Zurich, le parc de Sidwald. Et c'est intéressant d'essayer de revenir sur ce faible nombre. En fait, l'existence de cette zone centrale préservée limite très fortement le nombre d'espaces susceptibles d'en faire partie. Donc je vous rappelle, les parcs naturels périurbains, ils doivent être proches des villes, mais contenir une zone centrale non seulement préservée, mais où en fait on va laisser la nature à son libre cours. Si bien que ça exclut tout un tas de milieux naturels qui ne subsistent que parce qu'on les entretient. C'est le cas des zones humides, c'est le cas des prairies sèches, c'est le cas des bordures de lacs, des rives de lacs, qui doivent être régulièrement entretenues pour compenser la disparition des fluctuations naturelles. Et en fait, la définition du parc naturel périurbain exclut tout un tas de natures qui ne peuvent pas rentrer dans ces catégories-là. Et finalement, il n'y a que les forêts, en gros, qui peuvent correspondre à cette définition-là de la nature. À présent, après ces trois, la manière dont la nature a évolué via l'introduction de ces trois catégories de parcs, je vais vous présenter donc la discussion qui a eu lieu par rapport à cette idée de créer un parc naturel urbain. Alors, pour vous planter le décor, cette discussion a eu lieu donc en 2010 à la suite d'une demande d'Argovie, donc du canton d'Argovie, pardon, qui se situe dans la Suisse, pas très loin de Zurich, et qui en gros dit nous, on a une zone naturelle à la confluence de trois rivières qui est super intéressante. Et en fait, on aimerait bien pouvoir protéger cette zone, on aimerait bien pouvoir en faire un parc naturel, mais en regardant la définition du parc naturel périurbain, on ne rentre pas dans les critères parce qu'on n'arrive pas à trouver une zone centrale suffisamment grande et qu'on pourrait suffisamment préserver en fait pour rentrer dans la définition. Donc pour que ça... Il y avait deux éléments. D'abord, c'était un réseau. C'était pas une aire, alors que cette zone centrale doit être une aire. Et le deuxième élément, c'est que y a un certain nombre de pratiques dans ces zones, par exemple la pêche, qui devraient être interdites si on essaye d'en faire un parc naturel périurbain. Alors ça, c'était la demande du canton d'Argovie, et la Confédération, donc l'Office de l'environnement, entre en matière en disant... c'est vrai qu'on reconnaît que cette zone est super intéressante du point de vue de l'environnement, mais qu'il n'y a pas d'outils du côté des parcs pour vous satisfaire. D'où cette idée de réfléchir à une nouvelle catégorie de parc qui serait le parc naturel urbain et qui pourrait correspondre à cette demande. A priori, bonne idée, puisque ça correspondait finalement, ça complétait assez bien le panel de parcs pour en proposer un qui servirait à protéger la nature urbaine. Ça comblerait un vide. Et a priori, en termes de type de nature, et là c'est pas j'ai repris un tableau qui avait été fait à l'époque par le responsable de ce groupe de travail et qui disait qu'avec les parcs naturels urbains, finalement, on comblait un vide. Au niveau des localisations, on avait un parc qui se situerait en ville, mais aussi au niveau de la nature cible, avec le parc naturel urbain, on pourrait, de cette manière-là, protéger une nature anthropisé, tout comme il identifiait le parc naturel régional par opposition, par différence avec des aires naturelles, une nature de type naturel dans les parcs nationaux et dans le parc naturel périurbain. Alors cette discussion a tourné court, c'est-à-dire que, ou plutôt elle a eu une conclusion qui est de dire on ne créera pas de nouveaux parcs naturels, parcs naturels périurbains. Et les raisons invoquées sont intéressantes, puisque il y avait d'abord l'idée qu'avec une nouvelle catégorie de parcs, on affaiblirait les trois autres, et qu'on allait, en termes de moyens, on n'allait pas développer une nouvelle catégorie, parce que voilà, les moyens étant limités, ce serait voilà, accorder des moyens à des parcs qui en avaient peut-être, enfin des espaces qui en avaient peut-être moins besoin ou qui ne ressortaient pas de la responsabilité de la politique des parcs. Et deuxième élément, c'est que dès le départ, c'est évidemment pas de mon fait puisque j'étais membre du groupe, mais il s'est avéré que c'était primordial qu'il y ait cette fameuse zone centrale en fait. Pour qu'il y ait un vrai parc, il fallait une zone centrale. Alors c'est minimum 4 km² où on empêche toute activité humaine. Qu'un parc, que ça fasse un vrai parc, il fallait cette zone. Alors que je vous le rappelle, dans le parc naturel régional, il n'y a pas de zone centrale. Hein. Toute la nature est humanisée. Mais dès le départ, on s'est dit, voilà, si on crée un parc naturel urbain, il faut qu'il y ait cette zone normale. Et en fait, de fait, on n'arrive pas à la trouver en ville, et en particulier pas dans la zone en Argovie, qui était l'objet de la discussion. Et la solution proposée, c'était de dire, la nature urbaine, il faut la protéger, mais ce n'est pas notre business à nous, politique des parcs, de s'occuper de ça. C'est peut-être le travail de l'aménagement du territoire. Il y a aussi des instruments de ce côté-là, mais ce n'est pas l'objet de la politique des parcs. Et puis, il donnait en particulier comme exemple un parc qui a été créé dans l'agglomération zurichoise, qui s'appelle l'Agloparc Limmatal, qui est une zone pour laquelle on a créé en fait un parc, ex nihilo, avec une zone qui est très très le long du fleuve Limmat, une zone qui est très où il y a à la fois d'industrie, de l'habitat et aussi des zones naturelles tout à fait intéressantes. Et en fait, ils prennent ça comme exemple en disant si on a des objets naturels proches des villes qu'on souhaite préserver, ça c'est la solution. Donc que les collectivités locales se mettent ensemble et imaginent un espace protégé et trouvent le moyen de protéger cet espace. Mais ce n'est pas notre responsabilité du côté de la Confédération, du côté des parcs naturels, de protéger ces parcs. Alors peut-être, le savez-vous, mais il y a eu en gros la même discussion en France en 2006. La question de savoir s'il fallait créer une nouvelle catégorie de parc, les parcs naturels urbains, a été débattue au Sénat. Et ce qui a été dit est tout à fait intéressant, puisque l'argument pour rejeter cette nouvelle catégorie a été finalement de dire que cette nouvelle catégorie crée une confusion au sein d'une législation fondée sur la protection d'une nature naturelle et d'une nature rurale. Et vous voyez qu'on retrouve un peu les critères des parcs naturels en Suisse, et là je cite le rapport du Sénat, cité lui-même par deux auteurs qui ont écrit sur cette question, le risque est effectivement grand, sous une appellation commune, parc naturel, de rendre illisible l'objectif de préservation du caractère naturel et rural propre au territoire classé parc en France. Donc en fait, on exclut la ville, la nature urbaine de cette définition. Alors qu'est-ce que j'en tire de ce cas, je trouve particulièrement intéressant, un certain nombre d'éléments. C'est clair pour le parc national suisse créé en 1914, on est là face à une nature sauvage dont l'homme est totalement exclu. Avec les parcs naturels créés en 2006, on est bien à une nature qui a été anthropisée, dont on reconnaît l'interaction avec l'homme, et où même l'homme, dans le cas en particulier des parcs naturels régionaux, est nécessaire à l'entretien de cette nature et participe à sa construction. Et le développement durable accompagne en fait la reconnaissance de l'interaction homme-nature. Par contre, la nature des parcs naturels est une nature sauvage ou rurale, mais ça n'est pas une nature urbaine. Donc la ville, la nature urbaine, reste exclue de la définition de cette nature à protéger. Et voilà ce qu'on peut faire comme bilan. Pour moi, il y a vraiment une hiérarchie implicite des natures. Donc évidemment, cette hiérarchie n'est pas présentée de cette manière-là, mais dans la définition de la nature des parcs naturels, il y a une hiérarchie implicite de la nature, avec une nature qui est tout en haut, la meilleure nature, qui demeure en fait la nature sauvage, en dépit du fait qu'on reconnaisse l'interaction avec l'homme. la meilleure nature qu'on puisse avoir, c'est une nature où l'homme n'intervient pas. Et puis, si on n'a pas cette nature-là, une nature qui reste encore assez bonne, qui est quand même moins bonne, mais qui reste quand même assez bonne, c'est la nature rurale. Une nature qui a été modifiée par l'homme, mais qui est réputée tout de même comme étant suffisamment naturelle pour mériter la protection. Et donc, ces deux natures-là, la nature sauvage, la nature rurale, concernent la politique des parcs naturels. Et la nature urbaine, elle se retrouve finalement tout en bas de l'échelle. Et elle, c'est pas la politique des parcs qui doit la gérer, c'est plutôt la politique d'aménagement du territoire, ou alors, et je vais y venir tout de suite, la politique, la stratégie sur la biodiversité. Ça c'est le bilan que je peux faire de cette analyse, mais en fait il serait assez caricatural d'en rester là. D'abord, je vous l'ai dit, l'Office fédéral de l'environnement est rentré en matière, c'est-à-dire, on est d'accord, ce que vous présentez dans le canton d'Argovie est une nature tout à fait intéressante et elle mérite d'être protégée. Donc il n'a pas dit elle ne mérite pas d'être protégée. Disent finalement c'est pas du domaine des parcs naturels. Et surtout on voit vraiment ces dernières années une évolution de la conception de la nature de par ces milieux-là. Une chose que j'ai pas dite finalement, c'est que moi j'étais un peu la représentante urbaine du groupe de travail. Si on veut, mais il y avait principalement des biologistes et puis des représentants des associations de protection de la nature qui étaient dans ce groupe de travail sur cette nouvelle catégorie de parcs. Et dans ce milieu-là, comme dit en introduction, on constate quand même une nette évolution de la conception de ce que c'est la nature et de la nature urbaine. Et ça se marque dans la stratégie biodiversité du Conseil fédéral qui date de 2012, où on dit finalement que la biodiversité est partout, en haute montagne, en forêt, sur les terres agricoles, en ville. Et même en ville, 40 à 50% de la superficie peut servir d'habitat à des animaux et à des plantes. Donc des espèces rares évincées des zones agricoles trouvent un habitat de remplacement en ville. La dernière phrase est particulièrement intéressante puisque la ville est même présentée comme refuge pour certaines espèces chassées des espaces agricoles surexploités. Donc l'opposition ville-nature, ville sans nature et campagne, l'opposition ville-campagne, l'opposition ville-campagne entre une ville où il n'y a pas de nature, une pauvre nature, et puis la campagne qui est le lieu par excellence de la nature, est ici fortement critiquée, finalement. Autre élément qui va dans le sens de montrer que la nature urbaine est en train de vraiment prendre son essor chez les naturalistes, l'intérêt de la nature urbaine, ça c'est une publication aussi de l'Office fédéral de l'environnement qui montre que les milieux urbains sont des milieux très importants pour la biodiversité. On y trouve des araignées et des insectes tout à fait qu'on croyait disparus, et puis ils présentent tout un tas de lieux qui sont propices à la nature urbaine. Donc ça, je voulais montrer comme élément de discussion le fait que la conception de la nature, et en particulier de la nature urbaine, aujourd'hui, chez les naturalistes, fait largement débat, en fait. Il y a des positions qui peuvent être très différentes. Dans ces positionnements, le développement durable a une part importante, je dirais, dans la reconnaissance du rapport homme-nature et du rôle que peut avoir l'homme en fait dans la gestion de cette nature, mais aussi dans l'idée que la nature est nécessaire à la qualité de vie humaine, et donc l'idée que voilà, il y a un système, tout cela fait système. Là, je prends une publication récente de Wu, et qui fait finalement du développement urbain durable le nouveau paradigme, c'est la proposition de l'article, le nouveau paradigme de l'écologie urbaine. Et puis, je voulais finir sur ce tableau que j'ai réalisé en fait avec un collègue sur un autre sujet. Donc, il s'agissait notre cas d'étude, c'était un projet de plage à Genève, donc sur les bords du Léman. Et ce projet était tout à fait intéressant parce que il y a eu un énorme débat par rapport à l'impact que pouvait avoir ce projet de plage sur l'écosystème lacustre. Et ce qui a été tout à fait passionnant, c'est que il y a des experts naturalistes qui ont été mobilisés dans l'histoire par différents parties prenantes, je dirais, et il y a eu trois avis différents sur l'impact que pouvait avoir cette plage sur l'écosystème lacustre. Et les avis exprimés, on les a synthétisés de cette manière-là, qui vous présente finalement trois postures des naturalistes actuellement par rapport à cette question de la nature urbaine. Et qui reprennent finalement des représentations de la nature que tu as évoquées dans ta présentation du néo-naturalisme. Il y a une posture extrême qui serait la posture qu'on a appelée défensive, et j'ai mis en anglais parce que j'aurais pu mettre en français, mais il y a un article qui vient de paraître avec ces trois conceptions après qu'on ait publié l'article. J'aurais aimé l'avoir avant, mais l'idée de, et ça reprend l'idée en fait de valeur intrinsèque de la nature. C'est lié à des théories écologiques qui sont du domaine de l'écologie de l'équilibre, fortement dont une hypothèse forte finalement, c'est qu'il y a un équilibre de la nature et que l'homme, pour le dire vite, l'homme vient perturber cet équilibre. Donc dans cette conception-là, l'homme est fortement le perturbateur. Et l'idée, c'est de protéger au maximum cette nature contre toute transformation humaine. La nature urbaine doit être protégée contre les transformations qui apporte l'homme. Et par rapport, bon, la dernière colonne, c'est par rapport à notre projet de plage. Et par rapport au projet de plage, en gros, la position de ces acteurs-là, c'était de dire il ne faut rien faire parce qu'on aura un impact sur l'écosystème lacustre. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un ponton. Et pas une plage, c'est-à-dire un ponton en bois en hauteur. Il y aura juste des piliers qui seront dans l'eau, mais il n'y aura aucun remblaiement du lac. Donc posture défensive, posture d'idée de valeur intrinsèque de la nature, par opposition d'autres experts naturalistes, eux, avaient plutôt une vision beaucoup plus utilitariste. Qu'on pourrait aussi qualifier d'instrumental, qui est l'idée et qui est fortement ancré, eux se font référence à ce paradigme du développement urbain durable en disant que en ville, la nature doit être avant tout au service de la population, et que si des transformations sont nécessaires, il faut les faire. Et cette posture-là amenait, par exemple, dans le cas du plage, à dire on va remblayer une partie du lac et on construit, on met une pelouse qui créera un réel espace public sur cet espace. Alors, pour les besoins de la présentation, je caricature, mais un des éléments forts aussi de cet argument, la nature utilitariste, instrumentaliser la nature urbaine, c'est que ce qui vient souvent, c'est l'idée que plus on augmentera la qualité de vie en ville, au besoin en modifiant la nature, en utilisant la nature, plus la nature hors la ville pourra être préservée. Et puis, la position de l'entre-deux, je dirais, c'est la position intégrée, qu'on qualifiera d'être relationnelle, c'est l'idée que si on modifie cette nature, elle doit à la fois avoir des vertus sociales et naturelles. On peut trouver le moyen de modifier, s'il faut, un écosystème, mais les modifications qu'on apporte doivent être à la fois bénéfiques pour l'homme et la nature. Et là, au niveau théorique, on se situe dans des théories qu'on appelle écologie de la réconciliation, écologie sans équilibre. Sans équilibre, pourquoi ? Parce qu'il y a des interventions humaines, des interventions qui modifient l'équilibre des écosystèmes, qui les transforment, mais cette transformation n'est pas forcément négative, en fait. Pour le cas de plage qui nous occupait, l'idée, c'était de créer une lagune à la fois une plage et une lagune. Lagune, en fait, qui allait améliorer le fonctionnement de l'écosystème lacustre à cet endroit-là, puisque actuellement, il y a des enrochements, donc des grosses pierres. Et avec une lagune, cela permettrait en fait d'avoir un fonctionnement meilleur de l'écosystème, faire venir d'autres êtres vivants, disons, aussi bien des plantes que des animaux. Ce serait un lieu de reproduction des canards, enfin, plein d'autres choses comme ça. Donc voilà, je trouvais intéressant de finir sur cette... sur ce tableau qui donne en fait une représentation de la nature des naturalistes très diversifiée finalement. Et je pense qu'on est vraiment dans ce moment actuel. Je vous remercie pour votre attention.